Antoine, c'est l'après-repas, là, on est sous le tilleul, installé à table, et on boit pas le café.
La ricorée, voilà. Moi, je sais que j'en ai bu pendant un moment, parce que je palliais des fois à l'alcool en buvant ça toute la journée. Donc, je buvais de la chicorée à longueur de journée.
Voilà. Quand t'es arrivé ici, au Guet, c'était quand, ça?
Moi, je suis arrivé, ça fera bientôt 3 mois.
Tu étais sevré, tu avais fait une cure pour te débarrasser de l'alcool ou pas?
Alors, des cures, j'en ai fait 7 en tout. Bon, moi, j'étais suivi au XAPA, le Triangle, à Nantes, parce que je suis de Nantes. Et là-bas, suivant mon parcours, l'assistante sociale qui a 20 ans de métier, qui connaît les tocs et compagnie, me disait, un gars comme moi, avec le parcours que j'ai eu, c'est un an minimum, quoi. Il y a le palier des 6 premiers mois où on commence à prendre de l'écart avec l'alcool ou la drogue. Et les 6 prochains mois, souvent on dit que c'est les moments les plus durs parce que là, faut consolider, se bétonner. Et puis voilà. Et moi, je suis venu ici. C'était un peu comme une dernière chance pour moi, le Guet, parce que là, je finissais mal. Je finissais SDF. J'ai une petite fille qui a été traumatisée il y a 7-8 mois, qui m'a vu ensanglantée de la tête aux pieds. Moi qui aime bien déconner, je suis très proche de ma fille, elle avait jamais vu son père comme ça. Et là, ça a été le traumatisme, elle a plus voulu me parler. Là, ça fait que 2 mois qu'elle me reparle. Donc je suis super content d'avoir repris contact. Et voilà, quoi. Et j'essaie de rassurer l'entourage qui n'en peut plus, quoi. Qui n'en peut plus. Moi, ma mère, elle a connu l'héroïne avec moi. Après, ça a été moi, toutes les drogues, hein, mais surtout la cam avec la seringue. Et puis, bah, ça a été l'alcool qui a pris le relais. Souvent, hein, les héroïnomanes ont fini alcooliques, hein. C'est la même sécrétion dans le cerveau, voilà, c'est ça, quoi.
Alors, depuis 2 mois et demi, donc, tu n'as plus touché à l'alcool. De toute façon, ici, la règle, c'est 6 rechutes, alors, départ.
Alors, moi, je suis un cas à part, si. J'ai eu un moment, en fait, avec un autre résident. Bon, après, moi, personnellement, je juge pas trop, mais cette personne, ça s'est mal passé ici, et la veille de son départ, me disait, Antoine, est-ce que tu pourras passer dans ma chambre? Bon, je me suis dit que c'était pour discuter, pour se dire au revoir, et il avait de l'alcool. Donc, on a été invités, une autre personne et moi, et face à la ouvert, ce qu'on appelle le fameux craving, où... c'est je prends pas, mais déjà à partir du moment où on se dit ça, c'est foutu d'avance et on sait qu'on va prendre, quoi. Et donc bah moi j'ai bu ce verre là. On a été surpris par Sam qui s'occupe du maraîchage ici et bah ça voilà. Et le lendemain, bah je tremblais, hein, je me suis dit ça y est c'est foutu, c'est bon, tu retournes dehors, tu reverras plus ta fille, tu reverras plus ta femme, tu reverras plus ta mère, tes potes c'est terminé. Et on m'a dit écoute Antoine, tu vas pas partir. Ils sont partis du principe que c'était calculé d'avance, que cette personne, moi étant extrêmement fragile vis-à-vis de la drogue ou de l'alcool, on m'a redonné une deuxième chance.
Comment tu définirais ton rapport à l'alcool ?
Alcool comme le reste. Hein. Moi, je sais que j'étais intermittent du spectacle, j'avais plein d'amis, une vie super quand j'étais jeune. Il y avait le côté un peu sexe, drogue, rock'n'roll. Je pense que c'est pour ça que j'ai commencé à taper dans les drogues. Je sais pas, c'était mes héros, moi, en tout cas, les rockers. Et puis, bah, on finit par perdre ses amis, son entourage, et on finit seul. Tous, hein, tous ici, on n'a pas beaucoup d'amis ou pas du tout.
Hein. Le produit, c'est une sorte de quoi?
Alors, sur le moment, c'est ce qui va permettre au corps et à l'esprit de se calmer. Sauf que le lendemain, on va se lever en manque. Donc, il va falloir combler ça, quoi. Et ça n'en finit pas. Et il faut vraiment des années, je crois, pour vraiment se rendre compte, avoir un minimum de recul pour se dire qu'on est enchaîné, qu'on est menotté. Moi, je sais que le jour où je me suis levé avec le manque d'héroïne pour la première fois, la première image que j'ai eue, c'était la menotte, quoi. Là, ça y est, t'es foutu, quoi.
Qui avait la clé?
Eh ben, malheureusement, c'est nous-mêmes. Personne autour peut rien faire, hein. D'où le fait qu'on emmène tout le monde avec nous dans le trou, hein. Tous ceux qui vous aiment. C'est pour ça que bah, c'est vrai que les amis ont tenté hein, d'aider. Hein. Moi, je sais que ma mère a été là pendant très longtemps, mais pouvait rien faire. Non, il y a que nous-mêmes. Il y a que en décidant, mais pour soi, ce qu'on le fait souvent pour les autres. Et malheureusement, ça fonctionne pas, quoi. Il y a aussi l'aspect de santé, quoi. Moi, je sais que j'ai perdu mes neurones, j'ai court-circuité le cerveau. Hein. Parce que moi, je buvais avec les anxiolytiques et tous les addictologues le disent. C'est on brise tout, quoi. On n'a plus de mémoire, on n'a plus de neurones. Je suis à deux à l'heure, toujours un train de retard dans les discussions.
Alors, t'as pris la décision finalement de venir te mettre à l'intérieur d'un univers bien délimité, hein, avec des règles assez strictes. C'est une sorte de mise à l'abri.
Ah bah là, c'est un bastion. Hein. C'est un bastion. Moi, quand je suis arrivé, c'est exactement ce que j'ai dit. J'ai dit, moi, il me faut me mettre derrière les murs et il faut surtout pas me laisser sortir d'ici. Mais alors, les limites qui sont bien, c'est que tout a été réfléchi, étant donné qu'ici, ça a 40 ans. Tout a été mûri au niveau du règlement et voilà, tout est mis sous scellé. Il y a les cartes bleues, on peut pas y toucher. Les téléphones, pareil, tout. Moi, j'ai demandé du bicarbonate pour m'essuyer au niveau de mes pieds. Et bicarbonate, et ben, ça sert à faire du crack. Eh ben non, et j'y ai même pas pensé. Hein. Donc, ça va loin. Effectivement, ouais, c'est ce qu'il fallait, parce que y a, dans d'autres cures, des fois, on vous laisse sortir, vous balader, c'est pas forcément bon, moi, je trouve, quoi. Faut un certain temps avant d'aller dehors, quoi. Et c'est exactement ce qu'on nous donne ici. Prends le temps, et en plus, quand on le sent pas, on a le droit de le dire et de dire non, je suis pas prêt d'aller dehors, quoi. Et surtout, quand on sent qu'on pense tout le temps à l'alcool ou aux produits, effectivement, c'est d'en parler pour essayer de comprendre comment agir, comment faire, et de conseiller au mieux, quoi.
Bon, la table de sous le tilleul commence à se vider. Les gens vont à leurs activités. Tu fais quoi cet après-midi, Antoine?
Moi, c'est pour la semaine que je préfère. C'est la semaine ce qu'on appelle de maison. Donc, on est de cuisine, on doit nettoyer les lieux.
Donc, tu as participé à la confection du repas, là, le farci, le poivron farci, c'était excellent.
Ouais, bah, je pensais que c'était pas assez cuit, mais ouais.
C'était craquant, c'était bon.
Ah, bon, bah, tant mieux, alors, si ça a plu. Donc, ouais.
Qu'est-ce qu'on a principalement? On a principalement des cœurs de bœuf, cornues des Andes, des marmandes. On a mis un peu de tout en fait.
C'est pas vrai, on a mis des marmandes.
Ouais. Donc tu prends les oranges?
Yes.
Les tangerines. Moi je prends ça. Cornues, les Andes et les marmandes. Trois variétés pour faire du plein champ.
Roland, c'est une vraie exploitation quand même, le gué. C'est pas, on bricole pas un petit peu avec la terre.
Au niveau de la structure agricole, on fonctionne comme un maraîcher peut gérer son exploitation. On a une serre-chapelle qui nous permet de faire tous nos jeunes plants à partir de la graine. Et après, on a quatre serres de production, ça fait à peu près 1000 mètres carrés de serre. Et on a à peu près un hectare en plein champ. Et on fait en sorte d'avoir des légumes toute l'année et d'avoir toujours 5, 6, 10 légumes pour faire les marchés.
Toi, t'es de la région, t'es paysan ou éduc?
Moi, je suis avec Sam, on est moniteur d'atelier. En fait, dans l'équipe, il y a des moniteurs d'atelier et des éducateurs spécialisés. Donc, notre fonction avec Sam, c'est de faire en sorte que l'outil maraîchage fonctionne bien pour que les résidents puissent se l'approprier et travailler dessus et que nos copains éducateurs comprennent bien ce qu'il y a à faire sur l'année. Mais toute la partie technique, c'est moi qui gère...
Mais c'est pas étanche, tu interviens aussi auprès des
alors,
résidents.
Donc après, ce qu'on fait nous en plus de gérer les jardins, donc on fait des soirées, on fait des nuits, des week-ends, où évidemment le maraîchage est un outil qui nous permet de se mettre en relation avec les gars. Et pendant qu'on travaille, quand on a le temps, on discute de là où ils en sont, qu'est-ce qui se passe quand ils travaillent, qu'est-ce que ça met en œuvre. Et voilà, on essaie de faire le jardinier philosophe. Pour faire le lien entre le rythme des cultures et le rythme de leurs soins. Souvent, moi, je fais l'association. Et que ceux qui mettent en œuvre dans le jardin, s'ils sont attentionnés à comment ils prennent soin d'eux, au bout d'un mois, deux mois, trois mois, ils vont voir ce qui se passe à l'intérieur d'eux, comment ils vont se désintoxiquer et comment ils vont voir le jardin qui avance et que ceux qu'ils mettent en œuvre, ils peuvent faire quelque chose aussi pour eux, autant que pour le jardin.
Alors, dans la main droite, tu as quelques plants de tomates. Hein.
Voilà, donc ça, c'est les cornues des Andes.
Voilà. Et on les monte au champ pour
on fait une
les repiquer.
Partie, une partie des tomates sont dans des serres et une autre partie sont en plein champ. C'est pour avoir, à un moment donné, fin août, une grosse quantité de tomates, puisqu'on fait beaucoup de coulis de tomates et de ratatouilles.
Naïva? Je te voyais arroser là, tu ne demandes pas de consignes, tu as l'air de connaître ton boulot là. Ça y est, tu t'es déjà familiarisé avec la serre ?
Oui, un peu, effectivement. Ça fait 1 mois et 10 jours que je suis là, donc là j'arrose justement suivant la température. En fait, il y a eu des grosses pluies la semaine dernière, et là, donc gros soleil, il fait assez chaud dans cette serre. Et donc, il faut bien mettre son doigt en profondeur de la terre afin que de voir si elle est bien arrosée jusqu'au bout. Mais c'est hyper intéressant parce qu'on parle vraiment de tout petits semis, de petites graines, qu'après on repote dans de gros pots, vraiment après qu'on plante en terre. Donc on voit vraiment l'évolution et je trouve qu'au niveau du soin, c'est intéressant et c'est d'être vraiment proche de la vie sans produit, la nature.
C'est une activité que tu découvres ou tu avais déjà mis les mains dans la terre, toi, dans ta vie ?
Non, je découvre. Petite, j'avais plus un rapport à la ferme. Et d'ailleurs, mon souhait serait d'être un peu plus titulaire à la ferme. Mais non, je découvre ça, mais avec vraiment beaucoup d'enthousiasme et de passion. Parce que de voir grandir, justement, pousser, il y a un côté très méditatif. On prend le temps de bien faire les choses, on s'en investit aussi pour voilà, c'est pas parce que bah par exemple aujourd'hui c'est une mauvaise journée pour moi, on en a tous, mais voilà, on a notre travail à faire, on vit en communauté, donc on se sent responsable aussi bien des plantes ou des animaux à la ferme, donc c'est un vrai engagement personnel et envers donc les autres et les plantes et les animaux. Donc c'est bien.
Excuse-moi Naëva de remuer le couteau dans la plaie. C'est quoi une mauvaise journée ? Pourquoi tu dis ça ?
Moi je suis arrivée, du coup j'ai eu une période de sevrage donc principalement pour l'alcool. Après je suis polytoxicomane. Mon souci c'était vraiment de fuir la réalité pour plusieurs traumatismes. En fait c'est très intéressant que vous soyez là. Parce qu'en fait, à travers la drogue, au début, on se sent plus libre. On a l'impression, mais c'est une fuite de la réalité, une liberté au début. Mais après, vite fait, un enfermement, bien sûr, parce que du coup, on est plus libre de ses propres choix, parce que ça nous drive toute la journée, en fait. On fonctionne avec ça. Et aujourd'hui, une mauvaise journée, c'est parce que c'est un peu le manque, et puis c'est la contradiction entre... Envie de fuir, envie de craquer, et puis une autre partie de soi qui te dit « Mais non, t'as pas le droit, tu dois tenir. » Et puis en plus, voilà, j'aime la vie, je suis heureuse d'être là. Vraiment, j'ai fait plusieurs cures et c'est un très bel endroit ici, vraiment. Parce qu'avec le travail, avec l'investissement de tout le monde et le soutien de tout le monde, on se sent beaucoup plus concerné et investi et on prend des décisions.
Il y a le soin, mais il y a donc ces deux éléments, le travail, notamment la terre, la ferme, et la collectivité, la ville-groupe, hein, sur laquelle on insiste beaucoup.
On se sent assez connectés les uns aux autres, et je trouve qu'on est bien dans l'entraide, on est bienveillants. Bon, alors après, chacun a ses humeurs, c'est normal, mais je trouve qu'on est vraiment on est soudés, et on n'est pas dans le jugement. En fait, ce qui est très rassurant par rapport aux autres cures que j'ai pu faire, c'est que là, je me sens pas jugée, en fait. Donc, j'arrive à être plus authentique, de réapprendre à être moi-même. Et c'est assez magique, en fait. Donc, pas besoin de produits pour avoir des petits frissons de contentement. Voilà.
appelle le cagnard ici. Parce qu'on est en plein cagnard, quoi. Logique, hein. Là, derrière, il y a le petit château, là. Enfin, le gros château. Ouais, magnifique.
Ouais. Tu te sens bien ici?
Ouais. Ah, mais moi, je revis ici. Hein. Le travail, ça me fait trop du bien, quoi. Parce que ça faisait 2 ans que je faisais rien. Je suis artisan, moi, à la base, donc j'aime le travail, mais ça faisait 2 ans que j'étais complètement amorphe, quoi.
Qu'est-ce que c'est ton métier?
Artisan peintre. Peintre en bâtiment, ouais. Donc le travail, ça me fait beaucoup de bien, et l'effort, le fait de, en fin de journée, d'être bien fatigué, d'avoir de la bonne fatigue, c'est important pour moi, quoi. On fait des rigoles pour que la bâche soit bien tendue. Après, on va faire des trous dans la bâche et on plantera les semis de tomates, là. On a fait.
Ouais, pour qu'ils profitent de la chaleur de la bâche tout autour d'eux.
Ils profitent du cagnard, quoi.
Avec des laines, toutes,
on s'occupe comme on peut, hein.
Un trou tous les 50 à peu près,
ouais, à peu près, on va dire ça. C'est un peu à l'œil, quoi. Là, je sais pas combien il y a de pieds, je crois qu'il y a 360 pieds environ sur la parcelle là, donc ça va faire pas mal, quoi. Apparemment en été ça donne à foison, donc plutôt cool, quoi.
T'en parles avec plaisir. Le travail de la terre, tu connaissais avant d'arriver?
Ouais, un petit peu, ouais. Un petit peu chez mon oncle et ma tante, j'ai fait pas mal de maraîchage. Enfin, c'était pas à la même échelle, hein. Là c'est vraiment l'échelle maraîchage. Moi c'était au niveau jardin, mais ma tante elle m'a appris énormément de choses, quoi. Et du coup, je suis arrivé ici en connaissant quelques trucs, donc ce qui est plutôt bien, quoi.
Quel rapport tu fais entre travailler la terre et le produit dont tu essayes de te libérer?
Déjà, le retour à la terre, c'est quelque chose, je pense, qui est déjà dans l'esprit collectif. On en parle même, regardez, par rapport au Covid, tout le monde a envie de retourner. C'est quelque chose d'inné, je pense, chez l'homme, de retourner aux racines de la terre. Et par rapport au produit, s'occuper, occuper son esprit autrement. Et d'autant plus quand ça nous plaît, c'est encore mieux, quoi. Quelque chose qu'on aime faire, à travailler de ses mains. Et puis de voir au fur et à mesure les plantes grandir, donner des fruits, les consommer. Surtout qu'ici, on mange hyper bien. Donc ça finit dans l'assiette et c'est super, quoi, de voir le cheminement du début à la fin. On sème les graines, donc ça part vraiment du semis jusqu'à la récolte du fruit, quoi. Donc c'est ça qui est super intéressant, je trouve.
T'essayes de te libérer de quelle drogue, toi?
Alors l'alcool et la cocaïne surtout, cocaïne que je consomme depuis pas mal de temps. Et puis voilà, et les opiacés aussi, j'ai connu le shoot il y a 6-7 ans, quelque chose comme ça. Et c'est bête, mais bon, je suis tombé accro au Subutex, qui est un substitut de l'héroïne. Et je suis même jamais tombé accro à l'héroïne en IV, mais je suis tombé accro au substitut de l'héroïne, en fait. Et du coup, en fait, je suis tombé dans une spirale infernale, parce que du coup, aujourd'hui, je suis obligé d'avoir un substitut, en prenant de la méthadone, d'un substitut, donc le Subutex, qu'on trouve au noir un peu partout comme on veut. Et après, bon, je me suis fait assez facilement prescrire. Et alors que j'ai jamais consommé d'héroïne, quoi. Donc c'est un truc un peu débile. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et puis la cocaïne aussi, beaucoup, pas mal. Pas mal de temps, en assez grosse quantité. Donc, mais il y a un moment où c'est plus possible, quoi. On vrille. Donc voilà. Et puis l'alcool, évidemment, par-dessus tout ça. Ça fait pas mal de temps que ça dure. Et là, c'est passé un moment où il fallait vraiment que ça s'arrête, quoi.
Tu as quel âge ?
J'ai 33 ans. 33 ans, mais je pense que c'est ma première cure, contrairement à Antoine, j'entendais tout à l'heure, où lui il en a sa 7e, et je suis le seul ici, je crois, on est peut-être 2 à être arrivé, à être à notre première cure. Quand je parle un petit peu avec le groupe, tous, ils sont tous passés par 2, 3, 4, 5, 6 cures, et moi c'est vrai que c'est ma première, donc j'espère que je vais pouvoir m'en tenir à une, et que je serai pas obligé de passer par... voilà, c'est un petit peu la crainte que j'ai quand j'entends les autres qui me disent tous moi je suis passé par là, là. Donc c'est la crainte qu'on a, mais enfin que j'ai en tout cas, mais apparemment c'est un très bon endroit ici. Donc voilà, il faut y croire, quoi. Donc,
Et tu penses que tu peux aussi te servir de leurs récits, de leurs expériences, même si évidemment il n'y a pas de modèle sans doute, mais ça peut t'aider aussi à éviter les choses trappes, les...
Honnêtement, non. Je connais beaucoup de gens qui sont dans cette situation, donc je veux dire, on en parle peut-être différemment à l'extérieur. Là, c'est vrai qu'on a les idées claires, on n'en parle pas sous produit, donc évidemment, on est plus conscient de la chose. Mais bon, je sais pas, bizarrement, je crois pas trop à la parole. Pourtant, bon, bah, j'ai vu des psys, hein, comme la plupart de nous ici. On est tous épaulés plus ou moins par les centres d'addicto, les XAPA, les médecins, etc. Voilà, de toute façon, si on a envie d'arrêter un produit, on le sait tous, c'est la volonté, et rien que la volonté, et juste la volonté, quoi, c'est tout. Et après, évidemment, c'est un appui, les médecins, les traitements qu'on a à côté, mais à partir du moment où on n'a pas l'envie d'arrêter vraiment, de toute façon, voilà, on n'arrête pas, quoi. Et c'est pour ça que je pense qu'ici, au Gay, ils font vraiment un gros tri, selon les personnes qu'ils acceptent, en fonction de leur désir d'arrêter ou pas. On peut pas venir ici envoyé par un proche de la famille, ça marche pas. Il y a un parent qui appelle pour son enfant, je pense que, désolé madame, mais c'est pas vous qui venez, quoi, c'est votre môme, donc faut qu'il vienne de lui-même. Et moi, en venant ici, j'ai fait une lettre de motivation de 4 pages, j'ai téléphoné toutes les semaines, j'ai mis 4 mois à rentrer, donc ouais, non, c'était assez compliqué, hein. Donc voilà, mais bon, maintenant j'y suis, c'est cool.
Tu y es depuis combien de temps?
Ça fait 2 mois et demi que j'y suis, ouais.
C'est comment?
C'est bien. C'est bien. Après, il y a toujours des périodes. C'est vrai, quand on arrive, c'est tout beau, tout rose. On découvre plein de choses. Ah, c'est super. Je pouvais refaire ça, ça, ça. Mais en fait, on fait vite le tour. Et je pense qu'on a un... Je parle en on. Alors, on dit toujours de jamais parler en on ici. Il faut toujours parler en jeu. Mais je pense avoir fait le tour assez rapidement et être tombé au bout de 3 semaines, 1 mois, dans un truc où on se dit, ah ben en fait on a fait le tour, est-ce que je vais pouvoir? Donc là, c'est un petit moment de, et ça arrive à beaucoup de personnes, c'est pour ça que je parle en on, et là on craque en fait, et puis après on arrive à se remettre dans le truc, et après passer 2 mois, je pense qu'on peut se dire qu'on est là pour une longue période, quoi. On peut y croire, quoi. On peut faire la cure jusqu'au bout et ne pas partir comme ça du jour au lendemain sur un coup de tête ou quoi. Donc,
avant d'entrer, tu avais un métier?
Oui, évidemment. Ouais. J'ai travaillé 13 ans en compta. Mais juste avant de rentrer, non, je ne travaillais pas plus depuis... on va se faire écraser par le tracteur si on bouge pas.
C'est Sam, l'éducateur, qui le conduit?
Oui, c'est ça, ouais.
Ça t'arrive de te mettre au volant aussi?
Non. J'ai pas le permis, donc... J'ai pas le permis, mais bon, j'envisage de le passer ici. Ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que, bon, je suis au RSA, mais ça me permet justement de mettre un peu d'argent de côté et pour une bonne cause, justement, c'est de passer le permis. Donc, j'ai demandé si c'était possible et ils m'ont dit que c'était envisageable. Donc, sortir d'ici avec mon permis en poche, ce serait là le summum, quoi. Je sais que déjà, je changerais de métier parce que la compta, en fait, je suis tombé là-dedans. On va dire qu'on m'a mis là-dedans parce que c'était plus un arrangement, on va dire. J'ai commencé à travailler assez tôt, à 15 ans en fait, en troisième alternance. Et donc l'ambiance était super, c'est ce qui m'a permis de rester. Et donc je suis resté 9 ans dans cette entreprise. Ensuite j'ai continué de faire de la compta, mais ça me plaisait pas clairement d'être derrière les bureaux. Moi j'aime le manuel, quoi. Donc et là le fait de tomber malade en été 2019. Après il y a eu le Covid, donc le confinement. Et c'est là où j'ai vraiment travaillé avec mes mains et c'est arrivé juste avant que j'entre au Gay. Et je sais que maintenant, dès que je sors, je vais chercher du travail tout de suite avec mon permis en poche. J'y crois, hein. Et puis si j'ai mon permis, ça me permettra justement d'élargir mon champ de recherche au niveau du boulot, parce que sans permis, moi je suis du sud, région PACA, on a la ligne TER qui longe le littoral, mais dès que c'est dans les terres, c'est pas possible, quoi. Donc ça ferme énormément de portes de pas avoir de permis. Avant j'étais en région parisienne, donc les transports ça allait, mais conduire dans les états dans lesquels j'étais, je trouvais pas vraiment l'utilité de passer le permis. Mais là maintenant c'est primordial, quoi. J'en ai absolument besoin en sortant d'ici, et je sais que je vais pouvoir postuler, enfin en tout cas essayer de trouver un boulot dans le maraîchage ou en allant dans les terres un peu plus haut. Voilà, c'est pour ça que je compte vraiment, j'espère vraiment pouvoir sortir avec le permis en poche, quoi. Ça serait vraiment le top du top.
Alors on en était où là? des petits trous, toujours des petits trous.
Michael, qu'est-ce qu'il dit ?
Voilà Mika qui s'approche.
Ça va, mon poteau ?
Ça va ?
Ah, ça fait plaisir.
Ouais, ça fait plaisir.
Ça va, grand ?
Ouais.
Cool.
Alors, les retrouvailles, là.
Ah, putain, les grand Mika.
Ouais.
Pareil que t'as pas dormi de la nuit.
Ouais, on m'a dit t'arriver, j'étais un peu...
Panique.
Vraiment panique, j'étais content.
Ouais, c'est cool.
Ouais.
C'est cool, ouais, ça me fait trop plaisir d'être là. Moi, je pensais avoir tu vois, plus d'émotions en arrivant. En fait, c'est, wow, c'est fluide et c'est cool. Je suis, ouais, c'est,
pas brassé,
vraiment,
quoi.
C'est vraiment, non, pas brassé, voilà, ouais, exactement, c'est ça. Non, je suis... Ouais, c'est le top. Je revois tout le monde, ça fait vraiment plaisir. Oh, Jean.
Jean.
Ça y est, t'as repris la forme aussi, toi.
J'arrive en courant. T'as vu,
t'es qui, moi.
Voilà, hop.
Ça va.
Et toi.
Tranquille.
Ouais, nickel.
Ouais, ouais.
Voilà.
Bon, la famille, c'est la famille, ça.
Ça fait plaisir, gros.
Eh ouais. On est bien là.
Mais grave.
Ouais. Bah
oui. Bah ouais, bah ça.
Dans
c'est
les
la,
champs.
C'est la clé. Bah oui. Moi j'ai viré ma télé et tout.
Ouais. C'est vrai. Ah ouais. Putain, excellent.
Je suis dans le bois tous les jours.
Sans portable, sans télé, c'est le top.
Ça va trop. Ah ouais.
Sébastien, vous venez dire bonjour à Michael. C'est un ami.
Ouais, on a beaucoup d'affinités avec Michael, je suis très très content de le retrouver là, et ça, on a passé des bons moments ici, ouais, vraiment, donc du coup, vu que moi je suis resté 6 mois dans le centre, bon, c'est vraiment, ouais, c'est un ami, ouais. Voilà.
Donc vous êtes sorti il y a combien de temps ?
2 mois.
Comment ça va aujourd'hui ?
Très très bien, ça va très très bien.
Quand vous êtes arrivé, vous vous souvenez du moment où vous êtes entré au guet, là ? Vous étiez dans quel état physique et moral ?
Bah, physiquement, moi j'avais passé 6 mois d'abstinence et j'ai rechuté pendant 3 mois, donc 3 mois de grosse alcoolisation. Parce que mon problème c'est l'alcool, principalement. Et je suis arrivé ici dans un état pitoyable, parce que ça va très très vite, ça détruit vraiment psychologiquement et physiquement. Je suis quelqu'un de plutôt athlétique et j'avais plus rien envie de faire, je pouvais plus rien faire. Voilà, il a fallu 3 semaines, 1 mois pour déjà commencer à refaire des choses et petit à petit. Et au bout de 2-3 mois, ouais, j'ai vraiment repris. Toutes mes capacités physiques et mentales ici, puis après c'était un vrai travail de voilà d'envie d'y arriver vraiment, quoi. Donc j'ai pris le temps, c'est, je pense, une des clés, et avec aussi des bons encadrants, évidemment, donc ici c'est génial pour ça. Donc maintenant voilà, je suis sorti et j'ai mis tout ça en place, en pratique. En fait, j'avais toute la théorie et la pratique, elle est très dure quand on sort d'ici au départ. Et puis,
qu'est-ce qui est dur?
Bah, de la brutalité de se retrouver. On était en communauté à 13 tous les jours, 24 heures sur 24, avec tous les encadrants, 13 aussi. Et de se retrouver seul dans son appart à reprendre la vraie réalité de la vie, quoi. Et là, la première semaine, elle a été horrible. Donc, j'ai reconsommé, malheureusement, parce que je suis allé au plus simple. Mais je me suis mis, heureusement.
C'est-à-dire de vouloir faire tomber des tensions,
ouais,
se détendre.
Exact. Bah ouais, comme d'hab, gérer les,
enfin, soit dire comme tout le monde, quoi.
Bah non, malheureusement, à mon stade, pour parler de moi, un verre égale 10, égale la bouteille, quoi. Donc, y a pas de gérer juste une tension avec l'alcool, qui est un produit magnifique pour ça. Mais donc quand c'est une bouteille, bah le lendemain c'est une autre, etc. Donc la première semaine a été très dure, je me suis remis dedans complet, et heureusement, j'ai réagi très vite et j'ai réussi. Tout seul, du coup, à me ressortir de ça et me dire, ouais, il faut vite que je revienne dans l'état où j'étais il y a quelques semaines, quoi. Et voilà. Et donc là, ça fait 2 mois, donc c'est magnifique. Aujourd'hui, j'ai la même pêche qu'ici, mais dehors, dans la vraie vie.
On habite la même région, vous venez de Lyon, là, vous êtes descendu pour voir les encadrants, les amis, ici au guet. Et vous faites quoi à Lyon aujourd'hui de vos journées?
Alors aujourd'hui, je fais une formation en ligne. Alors paradoxalement, dans la diététique et la nutrition. Mais c'est ce qui me sauve aussi, bien manger et du sport. Ça, c'est la clé du truc pour retrouver son corps, justement. Et peut-être pour déboucher sur coaching en nutrition et aider les autres qui sont ou dans l'anorexie ou dans le surpoids ou dans la boulimie, enfin, etc. Tous les problèmes de poids ou de manger, le sucre, l'addiction au sucre, etc. Et de retrouver un bon équilibre et surtout de pourquoi, l'aspect psychologique du pourquoi on va à la nourriture. C'est un petit peu le même phénomène, hein, sauf que ça détruit moins et puis ça ne fait pas dégénérer le cerveau, quoi.
On mange bien ici, hein.
On mange très très bien ici. J'adore la cuisine, donc ici j'ai fait des bons petits plats aussi. On mange très très bien ici. Ouais. Et puis c'est tout production locale à quelques mètres, produit par nous, ramassé par nous. Magnifique. Belle expérience aussi.
Le thème qui nous intéresse sur Ici l'ombre, c'est l'enfermement, les enfermements, toutes sortes d'enfermements. Bon, ici, c'est pas une prison, évidemment, mais il y a quand même des règles assez drastiques, hein, que vous avez subies, acceptées, vécues comment ?
Au départ, c'est un peu, on a l'impression de subir, mais en fait, au final, après quelques mois, et donc du coup, c'est ce que j'ai mis en pratique aussi en sortant, c'est que la réalité, en fait, et la vérité, elle est peut-être ici. On est coupé des téléphones portables, de tout ce qui est télé, technologie, ordinateur, internet, et c'est le retour à la nature. On a simplement accès à des bibliothèques, à des livres, au jardin, à la vraie nature, au chant des oiseaux, enfin tout ce qu'il y a de plus simple. Et moi, j'ai plus de télé chez moi, je l'ai enlevé, et ça me permet aussi de plus avoir d'angoisse. Je discute avec beaucoup de gens qui me disent oh, aujourd'hui on a peur, c'est pas sécure, c'est machin, c'est ceci, c'est cela, mais bah éteins ta télé, tu verras que ça, c'est en fait c'est non, c'est magique la vie.
Regardez. Mais vous êtes en lien quand même avec le monde au sens large, ou vous vous informez encore ou...
Évidemment, quand même. Donc évidemment, il faut rester en contact, mais poser son téléphone le maximum du temps et sa télé. Et retour aux sources, les trois quarts du temps. Après, évidemment que j'ai accès à Internet, je m'informe, bien sûr.
Donc des contraintes qui vous sont apparues rétrospectivement de bonnes règles à s'appliquer à soi, quoi.
Des bonnes règles appliquées à soi, et puis de toute façon la vie est faite de contraintes, donc c'est justement en ne s'en mettant pas qu'on est aussi privé de liberté, parce qu'on doit se mettre des contraintes quoi qu'il arrive, mais qui vont dans le bon sens quoi. Et en fait c'est bizarrement assez simple, en tout cas en théorie. À mettre en pratique c'est vachement plus dur, mais c'est un travail de longue haleine quoi. Faut comprendre comment ça marche et comment ça fonctionne, mais voilà, la simplicité de la vie nous donne tout.
Sébastien, dans votre parcours de vie, vous me dites si c'est une question indiscrète, est-ce que vous avez été parfois confronté à l'enfermement au sens premier, prison, hôpital psychiatrique fermé ou...
Pas vraiment, mais j'ai eu quand même 6 mois de prison ferme qui ont été aménagés là justement parce que j'ai fait un très gros travail sur moi et notamment ce centre de soins. Donc la juge d'application des peines me l'a aménagé vraiment très sympathiquement. Donc je ferai pas de prison ferme, mais j'étais à deux doigts d'y aller parce que de toute façon, dans tous les cas, les addictions en général, ça mène ou à la prison ou à la mort. Voilà, à la destruction en tout cas. Donc ça m'a bien servi de leçon aussi, et c'est un des paramètres qui met des barrières aujourd'hui pour la consommation de quel que soit le produit d'ailleurs.
Et vous savez à quoi vous avez échappé ? La prison ferme, vous l'imaginez comment ?
Ah bah, très très dur justement. Alors c'est ça, dans l'envie de s'en sortir, quand on met tout ça en place, c'est ce qu'elle m'a dit très justement. On n'est pas là pour vous mettre une balle dans le pied et aller vous faire retomber. Vous êtes arrivé à un stade où c'est très très bien ce que vous mettez en place. Et la justice, dans ce sens-là, ça m'a fait du bien aussi par rapport à la justice française. De pas tout de suite la répression, quoi, d'écouter, de comprendre. Et ça, c'est important.
Je commence à avoir du sang, quoi. Et décapité, quoi. Et je m'étais mis dans la tête que quand les poules étaient décapitées, c'était la chouine, quoi. Et là, visiblement, c'est le renard qui fait ça, quoi.
Faut le piéger.
Faut le piéger, bien sûr.
Surveiller, son renard.
Il revient encore, là. Et il va revenir, hein. Bien sûr qu'il va revenir.
Mais il y a un piège, là, qui est quelque part, hein.
Ouais, il y a un piège, mais complètement démonté.
Il n'y a pas le choix,
il faut le faire proprement, mais il y a moyen, hein. Mais ils sont pas chauds du tout, parce que c'est vachement réglementé, le piégeage. Donc ils veulent passer par un piégeur agréé, il n'y en a pas pour le secteur et tout, quoi. Si on veut être dans la légalité, on n'a pas le droit de le piéger nous-mêmes. Quoi. Donc, comme on nous apprend à être de nouveau dans la légalité, ils ne vont pas nous demander de les piéger. Non, je préfère... la mare, donc... T'es là quand ils ont commencé la mare ?
Non. C'est moi qui ai creusé le trou au départ.
Ouais, bah c'est Michel et Jean qui l'ont fait, quoi.
Ouais, elle est sympa.
Elle est super belle, quoi. Super belle.
Y a pas les canards encore, du coup ?
Les canards, on les a pas sortis aujourd'hui, quoi.
Ah, mais ils sont là.
Donc là, c'est les canards.
Ah ouais.
On a le joueur qui est là-haut. On est obligé de les séparer, les conlins, quoi. Parce qu'ils les attaquent, le conlin, quoi, il est...
Ah oui.
Ouais.
Parce que c'est le jar qui attaque les, ouais, les canards.
Bah, en fait, ça s'est passé la semaine dernière, tout ça, quoi. Et moi, j'étais pas là.
C'est la férocité du monde animal, hein, depuis que vous êtes arrivé là. Vous racontez des histoires de poules bouffées, de canards.
Bah, on est confronté à la réalité, quoi. Ouais. Donc ça, c'est notre poulailler, Marc. Notre poulailler, nos lapins, nos reproducteurs, quoi. Donc ça, c'est tous des femelles et les mâles sont à côté, quoi. Là, tu vois, là, il y a les petits, là. Yvonne, là, on a fait des petits qui sont là-haut. Et donc ça, c'est nos femelles, ça. C'est nos femelles qui nous permettent donc de faire des lapins pour notre consommation. Aujourd'hui, c'est un peu bizarre de manger de la viande pour moi. Quoi. C'est de les
aider. Tu t'attaches aux bêtes.
Ouais, forcément. Quoi. Non, c'est pour ça que je suis pas un bon fermier. Quoi.
Mika, ça te fait quoi de revoir Sébastien, ton pote?
C'est vraiment mon pote, Sébastien. C'est vraiment mon pote.
Mais il est dehors, lui.
Lui, il est dehors, quoi. On se parle souvent au téléphone depuis son départ, là. Ouais, ça m'a fait chier, quoi. Mais moi, j'ai appris à me rattacher aux gens ici, quoi. Avant, je m'étais un peu forcément isolé des personnes, quoi. Je faisais plus confiance à personne, je me faisais plus confiance à moi, quoi. Je suis arrivé le 11 août l'année dernière.
Tu te souviens de ce jour-là?
Oui, très bien, ouais. Très bien. Je m'en souviens surtout quand Séverine, une éducatrice, est venue me chercher à la gare, quoi. J'étais éteint, quoi. J'étais complètement éteint. Je faisais 55 kilos pour 1m92, quoi. Rien de dépassé, quoi. Très malheureux. Je suis arrivé ici. C'était très, très compliqué d'atterrir, quoi. Après des consommations massives de cocaïne pendant 5 ans, quoi. Mais vraiment massives, quoi, qui m'ont complètement détruit. Qui m'ont fait perdre tout ce que j'avais, quoi. Famille, amis, tout, vraiment tout, quoi. Et donc, je suis ici pour me reconstruire. J'ai fait beaucoup de travail ici, quoi.
Tu parles de travail de la terre, de la ferme et sur toi.
Surtout sur moi. Ouais, le travail de la ferme et de la terre, c'est un support en fait. C'est des ateliers, quoi, qui nous permettent d'être ensemble, de se responsabiliser, quoi. Mais surtout sur moi-même, quoi. Surtout grâce à la psychologue du centre.
Tu vois tous les combien?
Toutes les semaines, quoi. J'aurais jamais imaginé. C'est la première psychologue avec qui j'ai un contact. D'ailleurs, le peu de contact que j'avais avant avec les autres psychologues que j'ai pu voir sur Nancy, ça ne fonctionnait absolument pas, quoi. J'étais sans doute pas prêt, quoi. Et donc Anne-Sophie, elle est vraiment très bien dans ce qu'elle fait, quoi. Dans ce qu'on fait ensemble, quoi, d'ailleurs.
Et tu te sens plus centré, plus posé?
Plus posé, ouais, beaucoup plus posé, beaucoup plus serein, quoi. Je suis arrivé ici, j'étais vraiment malheureux. J'avais vraiment eu conscience d'avoir tout gâché, j'avais une belle situation, hein. J'ai commencé à déconner entre guillemets assez tard, quoi. Surtout avec les drogues dures, avec la cocaïne principalement, à 35 ans, quoi.
Tu faisais quoi comme boulot?
J'étais responsable d'un bureau d'études chez Engie, quoi. Donc j'avais un très très bon travail, quoi. J'avais du personnel sous mes ordres, mais bien sûr la consommation m'a fait tout perdre, quoi. Perdre pied, perdre le travail, perdre la confiance que pouvaient avoir mes amis, ma famille, quoi. En plus, j'ai tout dilapidé, quoi. Absolument tout dilapidé, des fortunes, quoi. Bon, ça, c'est matériel, quoi. Et ouais, donc je suis arrivé ici l'année dernière en ayant tout perdu. Surtout confiance en moi, quoi. Et confiance aux autres aussi, quoi. Donc c'est quelque chose que j'ai avec quoi, que j'ai renoué, quoi. J'ai renoué avec ça, avec tout ça, quoi. Le fait de vivre plus de 12 heures sur 24 ensemble, dans un collectif qui est omniprésent, quoi, c'est... Ça crée des liens, quoi. Des belles rencontres.
Bon, bah, on va aller prendre le thé et apporter des brioches, quoi.
Ouais, voilà. On continuera à discuter ensemble. Le thé ?
Thank you. D'être privé de téléphone, ne pas avoir de contacts familiaux et tout ça, c'est pas évident.
Ces règles peuvent paraître lourdes et difficiles à vivre au début, parce qu'effectivement, il y a rupture avec le quotidien d'avant, mais on essaye que ces règles aient un sens. Respecter les horaires, ça peut être difficile, mais ça a un sens, par exemple. On peut ne pas le percevoir de suite.
Oui, après, j'ai pas dit que c'était pénible de ne pas avoir le téléphone. Hein. C'est au contraire, moi je suis très content de ne pas avoir le téléphone. C'est juste que oui, forcément, les liens familiaux manquent un peu, oui, c'est sûr.
Le sens à ça, si y en a un à trouver, c'est essayer de se recentrer sur soi. Parce que des fois, la famille peut être très présente. Là, du coup, ça pousse le résident à être en rupture et de se recentrer sur soi, essayer de se travailler lui-même. Mais il y a des résidents ici qui sont parents. On n'interdit pas le coup de fil aux enfants, par exemple. N'est-ce pas, Antoine ?
Il y a la terre entière pour consommer et le gué, c'est juste d'essayer de se préserver un lieu où les gens peuvent être libres de ne pas consommer. Enfin, retrouver cette liberté de ne pas consommer, un temps. Après, chacun fait ce qu'il voudra, mais...
Moi, par rapport à l'enfermement, en fait, moi, c'est l'inverse, l'enfermement, le gué, parce que moi, je l'allais être enfermé, quoi. Ça aurait été ou la prison ou l'hospitalisation si j'étais pas venu ici, quoi. Donc, je le vis tout à fait autrement, quoi. L'enfermement, je l'aurais vécu si j'étais pas venu ici, quoi. Donc, non, c'est les règles, le gué, ne sont pas contraignantes, quoi.
Moi, je trouve qu'on retrouve même une forme de liberté, en fait, ici. Enfin, pour ma part, dans la conso, à la fin, c'était vraiment un enfermement et en fait, c'était de l'autodestruction.
C'est quoi qui vous enferme dans la dépendance ? Comment vous le voyez, cet enfermement dans les produits ?
Quand on en a besoin, quand on va toujours chercher, quand le monde on s'enferme là-dedans parce que voilà, c'est une machine, on se lève le matin, on pense qu'à ça, on va en chercher, quand on l'a, on est tout content et en fin de compte.
C'est organisé autour de ça.
Mais... L'argent, on pense à l'argent pour s'en acheter, on pense direct où aller le chercher. C'est tous les jours comme ça, et voilà. On s'enferme là-dedans, et c'est le produit qui commande.
On se ment à soi-même énormément.
Voilà,
c'est un truc de fou, quoi. On se ment à soi-même, quoi. Si tu te dis, mais non, c'est bon, c'est le dernier pour aujourd'hui, ah, c'est bon, j'ai assez de sous pour finir la semaine, le mois, machin et tout. Alors qu'on sait pertinemment que voilà, et du coup voilà, on se met dans la panade tout le temps, mais bon, voilà, on contrôle plus rien, quoi. C'est le produit qui est au-dessus, et du coup, ça c'est vrai que c'est très difficile à gérer, quoi.
Le problème, c'est l'addiction. Il y a des addictions sans produit, il y a l'addiction au jeu, l'addiction aux écrans. On a des jeunes qui passent 20 heures sur 24 sur leur ordinateur, qui ne sortent jamais et qui ne peuvent plus s'en passer. Et c'est pour ça que la question de l'addiction, au-delà du produit lui-même, qui est plus ou moins nocif, mais on peut mourir aussi de passer 20 heures par jour dans le noir devant un écran. Il y a des jeunes qui en meurent, ils ne mangent plus, ils dépérissent. Et le fait de ne pas pouvoir sortir de ce lien-là, qui lui, par contre, nous coupe des liens avec les autres et des relations avec les autres, quoi. C'est pour ça que dans le gué, il y a une chose aussi qui est intéressante, c'est vraiment réapprendre les relations humaines, se remettre en relation avec l'autre, supporter les imperfections de l'autre, supporter les siennes aussi en écho, en miroir. Donc c'est refaire société. Et c'est vrai que la vie en société, elle n'est pas facile. Nos sociétés, elles ne sont pas simples aujourd'hui, quoi. Donc ça demande beaucoup de souplesse et d'exercice, quoi. D'apprentissage de la frustration et de bienveillance vis-à-vis de soi et des autres aussi, quoi.
Les plantes basilic.
Alors je vous dois 8.
On a un billet de 5 et 3. Ah non, c'est du persil plat. Voilà, 8 euros, madame.
Merci beaucoup.
Bon, bah, le soleil est revenu. Il était temps, hein.
Ah bah là, vous avez agrandi vos serres, j'ai vu.
Ah là, on n'arrête pas de planter. Là, ça va venir à foison, là. Ah ouais, ah là, on va avoir de tout, hein. Courgettes, poivrons, aubergines, carottes, petits pois, des fèves.
Vous avez planté sous serre ou à l'extérieur?
On a beaucoup de pieds sous serre, mais on a quand même, comme il y a 7 hectares en tout, il y a de quoi faire. On a plein de parcelles à l'ombre, en plein cagnard. D'ailleurs, il y en a une, c'est son nom, le cagnard Est, en plein soleil. Donc là, c'est beaucoup de coulis de tomates et puis les potirons et tout ça qui vont arriver début d'année scolaire, à la rentrée, quoi.
D'accord.
On a déjà des courgettes, hein.
Ah, vous avez déjà des courgettes?
Ah ouais, on en a des courgettes.
Ah ouais, c'est ça. Ça, pour ça, les serres, c'est génial. Hein.
Ah, ça va plus vite.
Ah, ça va plus vite.
Ah, ouais, on a quand même encore des nuits fraîches, hein, mine de rien.
Ah bah, l'été, par contre, il fait très chaud.
Oui, on m'a dit qu'ici, il faisait chaud. Je ne connais pas trop la Drôme.
Ah,
donc,
vous venez d'arriver?
Ah non, moi, ça fait 3 mois que je suis là, mais bon, je n'ai pas encore vécu l'été.
Ah oui, vous venez d'arriver.
On peut dire ça, oui, bien sûr, je viens d'arriver.
Eh ben, moi, je suis arrivée un peu plus tôt que vous, en 2017. Oui, les étés sont secs ici.
Oui, c'est ce qu'on m'a dit.
Les rivières baissent.
On va être dans les champs, là, ça va être...
Moi, c'est le matin très tôt et le soir à la fraîche.
Dans les serres, il fait déjà chaud le matin.
Oui, j'adore cette ambiance.
Ah ouais.
L'après-midi, c'est, vous pouvez faire ce que vous voulez, lire, dessiner.
C'est la sieste.
Et après, voilà, c'est ça. Les pays chauds, la farniente des pays chauds. Oui, voilà, exactement.
Le matin ou en fin de journée.
Ouais. Eh bien, bonne continuation.
Bonjour,
merci. Au revoir.
Au revoir.
Antoine.
Oui.
Tu aimes ce poste?
Ah oui, ouais. J'ai toujours la tchat, donc ça me dérange pas de parler avec tout le monde, donc ouais, la langue bien pendue, quoi. Mais oui, ça fait du bien de sortir du guet et puis de pouvoir discuter avec tout le monde, donc et le temps passe plus vite, quoi. Donc non, c'est sympa. Ah ouais, non, je suis content, quoi. Bon, on parle pas forcément du guet, hein, on parle surtout des plantes, du beau temps, voilà, quoi. Non, c'est cool, hein.
Donc vous relayez, c'est pas toujours toi qui t'y colle.
Ah, ici, là, ah non, c'est chacun notre tour. Chacun notre tour. Et là, c'est le vendredi, c'est une fois par semaine. Et là, comme on arrive à l'été, qu'il va y avoir beaucoup de légumes, c'est 2 fois par semaine. Donc voilà, on fait tourner un peu la machine, quoi. Bah, après, on n'est pas là pour faire des bénéfices, hein, mais bon, ça nous permet d'acheter les affaires au quotidien et les petits besoins, quoi. Mais bon, et puis apparemment, on est connu depuis longtemps ici avec le guet, donc les gens, ils savent que... Il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a pas d'engrais chimiques, c'est culture à l'ancienne. Donc,
Ils savent où va leur argent, hein, pour beaucoup. Hein. Aussi, c'est le geste de solidarité.
Ah, il y a aussi ça. Ah oui. Bon, on nous le dit. Je vous en prie. Bonjour, monsieur. Excuse-moi, bonjour. Marc. Bonjour, qu'est-ce que vous voulez?
6 euros, moi.
Alors, si vous en avez pour 6 euros.
Voilà, okay. Je me suis servi. Moi, je l'ai connu il y a 60 ans, le guet. À l'époque où c'était pas le guet, c'était un couvent avec...
Avec des bonnes sœurs,
oui. Des filles qu'on appelait des orphelines et un curé à l'époque.
Ouais. Alors qu'est-ce que vous avez pris du coup?
On a pris 3 et 3.
Vous avez vu ce que c'était, hein?
Oui.
Cœur de bœuf et andine cornue.
Ouais.
D'accord.
Ça, c'est votre collègue qui m'a servi.
Ah bah, ma collègue, c'est pas le mot, mais...
Ben, j'ai pas votre
non, c'est notre infirmière.
C'est
ma collègue du marché.
Votre collaboratrice, votre, je sais pas comment on dit maintenant.
La directrice des piqûres, enfin je sais pas.
La directrice des piqûres.
Vous savez, on est vite directeur aujourd'hui.
Alors.
Je vous remercie.
Merci, au revoir.